Au gré du temps, passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Notre invité fut au gré du temps, courriériste parlementaire à Québec, puis à Ottawa, ainsi que correspondante à Washington. Mais elle n'a pas terminé sa carrière comme journaliste, mais comme ministre. Députée de 2007 à 2022 de la circonscription d'Acadie à l'Assemblée nationale du Québec, elle fut ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et responsable de l'application de la Charte de la langue française, ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, ainsi que ministre responsable de la région des Laurentides. Un grand privilège de la recevoir. Christine Saint-Pierre, bonjour.
Bonjour à nouveau.
Oui, on s'est quitté la semaine dernière, on parlait du 11 septembre. Bien sûr, on pourrait en parler des heures et des heures, mais on fait un grand bond en avant. En 2007, si ma mémoire est exacte, vous avez un appel vers une autre carrière, celle de la politique. Comment ça a commencé? Qui vous a invité? Est-ce que c'était déjà prédestiné? Racontez-nous.
Cela faisait assez longtemps que j'y pensais. J'avais connu Jean Charest lorsqu'il était à Ottawa. J'étais correspondante à Ottawa. Et c'est un homme que je trouvais fort intéressant sur le plan politique, sur le plan des idées. Et lorsqu'il est venu au Québec, j'étais très contente d'ailleurs qu'il vienne diriger le Parti libéral du Québec. Et à un moment donné, j'ai eu un appel d'un ami, de quelqu'un qui est devenu un ami, là, Jacques Dupuis, qui était dans son cabinet. Puis il se dirigeait vers la Floride avec sa conjointe et il a dit « je vais m'arrêter à Washington pour te voir ». Puis on a commencé à parler de cette idée que peut-être que je pourrais me présenter. Puis pour l'élection de 2003. J'avais rencontré les instances du parti, mais j'ai pas voulu tout de suite y aller parce que je me disais « je veux finir mon mandat à Washington, je veux connaître une élection présidentielle, j'ai des choses à finir ici ». Lorsque je suis revenue, là, on m'a parlé d'une élection complémentaire. Il y avait aussi beaucoup d'hésitation chez mon conjoint parce qu'il sait que la politique, c'est difficile et qu'il se demandait si j'allais être capable de passer au travers toute cette cruauté-là. Mais en 2007, là, j'en pouvais plus. Là, j'ai dit, j'y vais. J'avais fait ce que j'avais à faire à Radio-Canada. J'avais fait le tour.
Aviez publié une lettre aussi où on vous a tapé un peu sur les doigts. Une lettre dans les journaux où vous, finalement, appuyez les mesures canadiennes pour soutenir les soldats en Afghanistan.
Oui, pour le dire rapidement, c'est après le 11 septembre, il y a eu évidemment le déclenchement de la guerre avec la coalition. Le Canada faisait partie de la coalition et des soldats canadiens étaient morts dans une bataille. Et j'étais de retour à ce moment-là à Ottawa et j'avais écrit une lettre d'appui aux soldats canadiens parce que j'avais connu le côté américain de voir à quel point les Américains respectent leurs militaires et leur vouent énormément, pas seulement du respect, mais aussi de l'amour et de l'affection. Et j'avais voulu un peu souligner ça. Puis j'avais envoyé ça à la presse. La presse l'a publié. Le lendemain matin, j'étais suspendue. Radio-Canada m'a suspendue parce que je n'avais pas respecté mon devoir de réserve et que j'avais pris position par rapport à la guerre en Afghanistan. Alors qu'au Québec et au Canada, au Québec surtout, il y avait beaucoup, beaucoup de résistance sur l'implication du Canada à cette guerre.
Et là, ça a été le début de la fin.
On m'a réintégré, mais ça m'a coupé les ailes complètement. Et cette approche de M. Charest et de son équipe m'a convaincue que j'étais prête pour faire le saut, j'étais prête pour autre chose. J'avais donné tout ce que j'avais à donner à Radio-Canada.
Vous faites le saut avec le Parti libéral, mais ce que vous avouez même dans votre livre, c'est que lors des deux référendums précédents, vous avez voté oui parce que votre sentiment à l'égard du Québec est très, 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 très fort également. On va écouter Gilles Vigneault, Les gens de mon pays, et on parlera justement de cette dualité au plan de Canada, Québec, où sont mes véritables appartenances.
Les Les gens de mon pays, ce sont gens de parole et gens de causerie, qui parlent pour s'entendre et parlent pour parler. Il faut les écouter, c'est parfois vérité et c'est parfois mensonge, mais la plupart du temps, c'est le bonheur qui dit. Comme il faudra de temps pour saisir le bonheur à travers la misère, emmaillé au plaisir, tant d'en rêver tout haut que d'en parler à l'aise. Parlant de mon pays, je vous entends parler et j'en ai danse aux pieds et musique aux oreilles, et du loin au plus loin de ce neige désert, où vous vous entêtez à jeter vos villages. Je vous répéterai vos parlers et vos dires, vos propos et parlures, jusqu'à perdre mon nom aux voix tant écoutées, pour qu'il ne reste plus de moi-même qu'un peu de votre écho sonore. Je vous entends jaser sur le perron des portes et de chaque côté des cléons, des clôtures. Je vous entends chanter dans ma demi-saison votre trop court été et mon hiver si long. Je vous entends rêver dans les soirs de doux temps. Il est question de vent, de vente et de gréement, de labours à finir, d'espoirs et de récoltes, d'amour et du voisin qui veut marier sa fille. Voix noire, voix durcie, d'écorce et de cordage, voix des pays plein champ et voix des amoureux, douces voix attendries, des amours du village, voix des beaux airs anciens, dont on s'ennuie en ville, puis ailleurs y décolle, et palabres et sparages, magasin général et restaurant du coin, les ponts, les quais, les gares, tous vos cris maritimes atteignent ma fenêtre et m'arrachent l'oreille. Est-ce vous que j'appelle, ou vous qui m'appelez, langage de mon père et patois 17e? Vous me faites voyage, mal et mélancolie, vous me faites plaisir et sagesse et folie. Il n'est coin de la terre où je ne vous entende, il n'est coin de ma vie à l'abri de vos bruits. Il n'est chanson de moi qui ne soit toute faite avec vos mots, vos pas, avec votre musique. Je vous entends rêver, douce comme rivière, je vous entends claquer comme voile du large, je vous entends gronder comme chute en montagne, je vous entends rouler comme Paris de poudre, je vous entends monter comme un grain de 4 heures, je vous entends cogner comme mer en falaise, je vous entends passer comme glace en débâcle, je vous entends demain parler de liberté.
Alors oui, les gens de mon pays, ce sont des gens que vous avez bien connus et pour lesquels vous vous êtes aussi impliqués dans la défense, entre autres, de la langue. Votre cœur balançait entre Québec, Canada?
Il faut savoir que, on a dit au début, dans la première émission, je suis originaire du bas du fleuve, Saint-Roch-des-Aunais. On parle de la vallée du Saint-Laurent. Et lors de avant la conquête, avant la prise de Québec, peu de gens connaissent cette histoire-là, mais elle a été documentée, elle a existé. Avant la prise de Québec, les mois qui ont précédé la prise de Québec, les troupes britanniques ont complètement saccagé la vallée du Saint-Laurent. Ils ont brûlé toutes les maisons, à l'exception de une ou deux. Ils ont brûlé les bâtiments de ferme. Ils ont détruit les récoltes. Et mon ancêtre faisait partie des cultivateurs, des agriculteurs qui vivaient dans cette région. Les hommes étaient appelés à aller vers Lévis parce que l'attaque à Québec s'annonçait. Les femmes et les enfants se réfugiaient dans les bois. Alors moi, je suis née, je viens d'une famille qui est arrivée, qui fait partie des premiers arrivants. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué beaucoup parce que ma grand-mère nous racontait cette histoire-là. C'est une histoire qui... Donc, mon appartenance au Québec, à la langue française, ça fait partie de mon ADN, ça fait partie de mon cœur, ça fait partie de mes tripes. Donc, je suis très, très, très québécoise. Mais en même temps, je suis attachée aussi au Canada parce que j'ai évidemment pas un passeport canadien, mais ce grand pays, je l'ai côtoyé, je l'ai visité, j'ai travaillé dans d'autres provinces, et je l'ai parcouru, ce pays, et je l'aime, ce pays. Mais lorsqu'il arrive le référendum, moi, à la dernière minute, ça s'est passé à la dernière minute, j'ai voté oui parce que je me disais, il va peut-être y avoir un espoir de négociation pour nous intégrer mieux nous intégrer dans la famille canadienne. Et alors c'est la raison pour laquelle j'avais voté oui, mais j'avais un attachement quand même. Et j'ai voté oui un peu à contre-cœur, mais en me disant, il faut faire une démonstration de force. Bon.
On a vu aussi par la suite, quand vous étiez ministre de la Culture, toute l'implication, toute l'énergie que vous avez mis à défendre les arts, les artistes québécois. On va pouvoir y revenir. J'aimerais que vous me parliez de votre prochaine chanson, « Moi, Elsie ».
C'est Elisabeth Isaac, qui est d'origine, qui est inuite, elle vient du Grand Nord. Et moi, j'ai visité, quand j'étais ministre, je suis allée jusqu'au Nunavut, à Iqaluit, lors d'une rencontre des ministres de la condition féminine. Et ce coin du pays-là est un coin qui est venu me chercher énormément. Ensuite, je suis allée au Québec, au Nunavik, à Koudjouak. Et j'avais aussi fait des reportages sur des communautés autochtones au Québec. Et ce sont des gens qui sont toujours venus me chercher très, très loin. Ce sont des gens que j'aime beaucoup. Et cette chanson-là parle de ces travailleurs du Sud qui vont vers le Nord et qui vont avoir des relations amoureuses avec des femmes là-bas, mais vont repartir, vont revenir. Et c'est une chanson d'amour. En fait, c'est une chanson d'amour.
Paraît que ton contrat cher surprend l'avion à la fin du mois. Écoute un peu, je serai bref. Tu vas manquer, pas juste à moi. Comme ces filles dans les baraques, peuplées à mort dans le désordre, avec des cousins qui les traquent dans le garde-robe au bout d'une corde. Y'en a pas une qui se protège de rêver d'être seule avec toi. T'es attirant comme un beau piège, tes lèvres brillent comme un opale. Je veux te dire comment je me sens. Je suis vraiment bien avec toi. T'es fin, t'es doux, pis t'es veillant. T'as un beau sexe, je le veux pour moi. Les filles assoient, font un cortège pour ramper jusque dans ton lit, pour commettre le grand sacrilège. Aimer un blanc mouillé son nid. Je suis rêvée, ça les console. Je te transmets leur gratitude. Et les aiguilles de leur boussole s'en vont la nuit pointée au sud. Tu te demandes peut-être pourquoi je prends pas un homme de ma rivière. Quand ils s'allongent auprès de moi, j'ai l'impression qu'ils sont mes frères. Les gars ici m'arrachent beaucoup. Ils viennent au monde, c'est même banal, avec une flèche plantée dans le cou. Et quand ils partent, ça leur fait mal. Ils sont pris dans un capteur de songe. À la coop, va donc savoir. Achète de la poudre à mensonge, part à la chasse aux idées noires. Quand leurs fusils ont tout vidé, ils prennent alors nos cœurs pour cible. Toi, tu m'as prise sans procéder. On aime un homme quand il est libre. Je sais pas pourquoi ça me fait penser. Peut-être une femme t'attend là-bas. Comment te dire sans te forcer? Y'a rien d'éternel ici-bas. Je sais parler comme ça, c'est pas bon. Faut m'excuser, je fais de mon mieux. Juste pour te dire qu'on fait des ponts où les rapides sont furieux. Souviens-toi de ce nom, Elsie, comme du vent doux sur la toundra. Et si un jour ton cœur choisit, j'aimerais tellement qu'il vienne à moi. Et si jamais c'était le cas, faut que j'aille à Montréal, Stilton. M'amènerais-tu dans le bout de Boca, voir les couleurs, manger des pommes? Paraît que ton contrat achève, tu reprends l'avion à la fin du mois. Écoute un peu, je serai brève, tu vas me manquer, pas juste moi. Pas juste à moi.
Moi, Elsie, proposée par Christine Saint-Pierre, notre invitée du jour. J'ai presque le goût d'enchaîner tout de suite avec votre prochain choix parce que vous nous avez présenté la précédente comme étant une chanson d'amour. La prochaine l'est aussi à l'égard de ce pays qui est la Corse, hein, cette région de France dont les Corses revendiquent parfois eux aussi l'indépendance. C'est la chanson Corsica, Petru Santu Gualfucci qui a composé cette chanson. Mais là, vous nous proposez une interprétation vraiment surprenante et fort belle.
Alors, je vous invite à l'écouter.
Alors, c'est celle de Patrick Fiori et Patrick Bruel.
Inusco
Oh, see you. caliente si rivolte si rivela. Somu disprezza soiente
On a fait le plein d'émotions. Vous allez nous en partager d'autres émotions. Je cite un passage de votre livre sur la fonction de ministre. Et quand je disais tantôt qu'on s'implique beaucoup au plan, par exemple, de la défense des artistes québécois, il faut aussi beaucoup s'instruire quand on est ministre. Et vous écrivez « Chaque fois, on me remet plusieurs cahiers à anneaux qui portent sur les organismes dont je suis responsable, les dossiers chauds, les enjeux. Je dois assimiler une quantité incroyable d'informations à la vitesse grand V. Et je dois diriger le ministère. On se demande parfois si 24 heures dans une journée ne sont pas suffisantes pour faire tout ce boulot. Je me demanderai souvent comment font les jeunes familles pour concilier un engagement politique et l'attention qui doit être apportée à des enfants de bas âge. C'est pas un travail facile.
C'est un travail qui est enlevant. C'est un travail qui est un peu en montagne russe, je dirais. C'est un travail qui est difficile. Vous l'avez connu un peu vous-même parce que vous avez travaillé dans un cabinet. Vous avez fait aussi une campagne, vous avez travaillé dans un cabinet. Vous voyez l'intensité qui règne à l'intérieur d'un cabinet ministériel. On est toujours sur la corde raide, toujours à l'affût aussi de ce que les journalistes vont raconter à notre sujet. Et il faut évidemment bien se documenter. Il faut être capable de comprendre les dossiers, comprendre les enjeux de ces dossiers-là. Et moi, comme ministre de la Culture, ça a été mon premier ministère avec la condition féminine, communication et langue française. Ça peut paraître peut-être être un petit ministère, le ministère de la Culture, mais c'est un ministère qui a beaucoup de tiroirs. Alors, on parle évidemment des arts de la scène, on parle de cinéma, on parle aussi, si on va de l'autre côté, on parle de patrimoine. On a beaucoup de sujets et il faut les connaître, ces sujets-là. Il faut être solide parce que lorsqu'on arrive dans un comité ministériel ou au Conseil des ministres, si vous n'avez pas saisi votre dossier, eh bien on va vous le dire d'abord, on va s'en rendre compte et on va aussi dans ces rencontres là entre les ministres, les autres ministres, et c'est une très très bonne chose, nous mettre au défi, on nous pose des questions, on nous demande d'avoir des explications, d'aller plus en profondeur. Alors, si vous arrivez mal préparé, bien, vous avez l'air de quelqu'un de mal préparé. Donc, c'est ça l'importance de bien comprendre.
Il y a eu des grands coups. Je pense, par exemple, à cet amendement concernant l'égalité femmes-hommes au plan de la charte. Vous avez porté le projet de loi qui a été adopté en 2008. D'ailleurs, même Jean Charest vous avait envoyé une note manuscrite vous disant que le prochain vote, avant qu'il soit adopté, marquera l'histoire des jeunes Québécoises. Félicitations, vous disait-il. Voilà pourquoi tu es député et ministre. Amitié, Jean Charest. Pour vous, c'était quelque chose de fondamental.
très fondamentale et ça venait d'un avis du Conseil du statut de la femme qui était présidé par Mme Christiane Pelchat à l'époque. Et c'est un sujet qui, pour moi, était très, très important. On ne retrouvait pas la notion d'égalité entre les hommes et les femmes dans la Charte des droits et libertés du Québec. Le Conseil du statut de la femme trouvait que c'était une erreur de ne pas l'avoir inscrit au départ. Et moi, j'ai pris ce dossier-là. Ça n'a pas été un dossier qui a été très contesté. On a eu un vote à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Mais les gens se demandaient, des gens se disaient, bon, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça va donner de plus aux femmes qui ont besoin de logements, qui ont besoin d'être accompagnées? Mais ça va envoyer, par contre, un message au tribunal que l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est fondamental dans notre société. Et pour nous, c'était aussi d'envoyer un message à tous ceux et celles qui décident de venir vivre au Québec, d'épouser le Québec, de vouloir bâtir leur avenir au Québec. Le message est clair. Ici, on parle d'égalité entre les hommes et les femmes, c'est une valeur fondamentale. Alors, il y avait un message aussi dans cet exercice du Parlement. Et j'ai vraiment remercié M. Charest de m'avoir accompagné là-dedans. Et M. Charest, pour parler de cette petite note là, qu'il m'avait envoyée, était un homme qui s'occupait beaucoup, beaucoup de son monde. S'occupait de ses ministres, s'occupait de ses députés, faisant en sorte que s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il pouvait téléphoner, il pouvait appeler, dire « j'ai eu des dossiers difficiles en langue ». Par exemple, un soir, j'étais complètement découragée, il m'a téléphoné, il m'a dit « on va continuer de t'accompagner, ne te décourage pas ». Alors, il accompagnait beaucoup, beaucoup ses gens, son monde, et ça faisait partie du personnage aussi. Et c'est pour ça que moi, j'étais très heureuse d'avoir, si on parle de mon soin en politique, de m'être associée à M. Charest et son équipe, parce que je savais que j'allais être entre bonnes mains.
Christine, vous aimez la musique classique?
Oui, j'aime la musique classique, j'aime les concerts. Je pense qu'on a besoin de temps en temps d'atterrir et de réfléchir au son d'une belle musique.
Alors, à mon tour de vous proposer une pièce de Frédéric Chopin, le Nocturne en Do dièse mineur, l'œuvre posthume, interprétée par un grand pianiste du Québec, André Laplante.
Thank you.
On parlait de musique classique en écoutant André Laplante. Il y a deux choses qui me sont revenues à l'esprit en écoutant la pièce. D'une part, votre collègue, Madame Jérôme Forget, qui, grâce à qui, finalement, on peut aujourd'hui bénéficier de cette belle salle pour l'Orchestre symphonique de Montréal, la Maison symphonique. Et ça aussi, ça fait partie des grandes acquisitions, des grands pas en avant. Et l'autre pas en avant, c'est que vous avez été élu ministre pour la première fois dans un cabinet qui était pour la première fois au Québec un cabinet paritaire, homme-femme.
Oui, c'était la première fois dans l'histoire du Québec et dans l'histoire du Canada et dans le monde, il n'y avait qu'un seul conseil des ministres paritaire. Alors, M. Charest a vraiment écrit l'histoire. On est en 2007, ça peut paraître très loin, mais à l'époque, la question de l'égalité entre les hommes et les femmes l'intéressait énormément. Il avait fait adopter d'ailleurs une loi pour amener la parité dans les conseils d'administration des organismes du gouvernement dans son gouvernement précédent en 2003 et 2007. Et justement, la loi dont on a parlé tout à l'heure, la Charte des droits et libertés, ça aussi, ça faisait partie pour lui de sa vision sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Et la parité au Conseil des ministres, il tenait énormément. Il voulait envoyer un message, bien sûr, mais il voulait aussi, pour lui, c'est important d'avoir les visions des deux côtés, parce que pour M. Charest, les femmes travaillent différemment, les femmes ont moins d'intrigues pour peut-être prendre la place du patron. Et c'était pour lui, c'était important pour lui d'avoir cette balance entre les hommes et les femmes et cette égalité entre les hommes et les femmes au Conseil des ministres. C'était, à son avis, très productif.
On me donne l'obscurité, puis la lumière. On me donne la faim, la soif, puis un festin. On m'enlève ce qui est vain et secondaire. Je retrouve le prix de la vie enfin. On me donne la peine que j'aime dormir. On me donne le froid pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil et qu'on m'enferme un an pour rêver à des femmes. On m'a trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. J'aime l'amour, la solitude aussi, pour que j'aime les gens, pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours et toucher la misère, pour respecter l'argent, pour que j'aime être sain, vaincre la maladie, qu'on me donne la nuit, pour que j'aime le jour, qu'on me donne le jour. J'aime la nuit pour que j'aime aujourd'hui, oubliez-les toujours. On m'a trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie.
Ah!
On vient d'entendre Johnny Hallyday, l'envie. Et si vous nous proposez Johnny Hallyday, c'est parce qu'il est arrivé quelque chose dont certains pouvaient peut-être qualifier de ringard, de quétaine, mais vous êtes allé, ben racontez-le nous, lorsque survient le décès de Johnny Hallyday. Ouais.
Cette chanson, je la trouve très belle parce que c'est la chanson de quelqu'un qui a tout eu dans la vie et qui se dit, ben, peut-être que j'aimerais ça avoir envie de quelque chose à un moment donné. C'est une chanson, et j'aime beaucoup, évidemment, Jean-Jacques Goldman, et je pense que Johnny Hallyday a beaucoup évolué dans sa carrière. Oui, on peut penser que c'était un quétaine qui se prenait pour un peu Elvis Presley, mais c'était, à un moment donné, il a un peu, il a viré vers des choses plus profondes. Il est allé chercher cet auteur, Jean-Jacques Goldman, qui lui a proposé des textes forts, et cette chanson, je pense qu'elle est très, très forte. Et moi, lorsque...
Et Vous êtes allé porter une gerbe, c'est ça?
Oui. Lorsqu'il est décédé, j'étais à Paris en mission et je dis à la délégation générale, j'aimerais bien qu'on aille porter des fleurs pour Johnny Hallyday. Pouvez-vous vous informer où est-ce qu'on peut faire ça? Et lui, il habitait à Marne-la-Coquette, qui est en banlieue de Paris. Alors, on est parti avec la gerbe de fleurs, le chauffeur, deux personnes de la délégation générale avec moi. Sa maison était dans un grand... il y avait des barrières, là, on pouvait pas y accéder comme on voulait. Là. Il y avait d'autres maisons aussi sur ce domaine-là. C'était dans un grand domaine. Et là, on nous dit, quand on arrive, Laetitia vous attend. Alors moi, je comprends pas trop là parce que je n'ai juste porté des fleurs à l'entrée de la barrière et on a été invité à sa maison. J'ai pu m'asseoir dans le salon à la place où lui s'assoyait. On a eu un café de la dame qui s'occupait de la maison. Son infirmière est venue nous raconter comment ça s'est passé dans ces derniers moments. J'étais dans un état second. Je n'en revenais pas. Évidemment, on n'a pas eu l'indélicatesse de demander de prendre des photos, là. C'était un moment trop fort. Il y avait des chandelles qui brûlaient partout sur la table à café. Et Laetitia est venue, était habillée très simplement, un coton ouaté, un jeans. Et elle avait dans le cou la croix. Un bijou que John L.D. portait, c'est une croix, c'est le Christ en croix avec une guitare. Et ça m'a beaucoup, beaucoup impressionné de voir qu'elle portait ce bijou. Ça a duré une minute avec elle, là, parce qu'elle était évidemment très fatiguée. Mais je vous assure que j'oublierai jamais ce moment. Et je pense que c'est quelque chose que, de temps en temps, quand on est ministre, il faut sortir des sentiers battus. Il faut, à un moment donné, dire à l'équipe, on n'ira pas dans cette direction-là, on va aller dans l'autre direction, parce que je pense que l'autre direction va être plus porteuse, plus intéressante. Et c'est comme ça qu'on a décidé. C'est moi qui ai décidé d'aller rendre hommage à Johnny Hallyday. Parce que aussi, pour ma génération, il a été très important.
Alors, on passe de Hallyday à Jacques Brel, quand on n'a que l'amour. Et écoutez bien ce qui suivra.
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les mots de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour, quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour, quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier.
Christine Saint-Pierre, Radio-Canada, New York. Christine Saint-Pierre, Radio-Canada, à Alexandria, en Virginie.
Bonjour Christine. Je suis émerveillée par ton parcours professionnel que tu décris si bien dans ton livre « D'un rang à ministre ». Tu as livré une bataille pour les droits des femmes et un combat pour sauvegarder notre belle langue tout en accueillant les immigrants avec dévotion. Ce fut un privilège d'être sur ta route lors de ton passage à Washington, D.C. Ta passion, ton dévouement font de toi de quelqu'un d'exceptionnel. Tant de reportages qu'on a fait ensemble. Ton baptême aux États-Unis avec le 11 septembre, le porte-avions américain Stennis, les Jeux olympiques et des centaines d'autres sujets. Je te salue chaleureusement, ton collègue Sylvain, qui a eu la chance de capter cette fougue dans sa lentille pendant 4 ans.
Christine Saint-Pierre, Radio-Canada, Washington.
Ouf, wow, ah, je suis, j'ai les yeux pleins d'eau. Sylvain Richard, un gars extraordinaire. On en a parlé pendant l'émission et ce message vient me chercher vraiment, vraiment très, très loin, très loin.
Il était très, très heureux de pouvoir participer à cette émission. Je lui ai fait une petite demande puis il m'a dit « Ah oui, pour Christine tout de suite ». Et je pense qu'il était aussi en transit, en voyage, entre probablement 2 affectations, ce qui rendait la tâche un peu difficile pour l'enregistrement, mais il a trouvé le moyen de nous envoyer ce petit extrait. Sylvain, qui effectivement, non seulement est un excellent caméraman, très créatif au plan des images, mais vous le savez, Christine, c'est quelqu'un aussi de très généreux.
Oui, très généreux, très sensible. Et aussi, dans le livre de l'École de rang au rang de ministre, on retrouve ces photos lorsque nous étions sur un porte-avions de l'armée américaine. Et Sylvain a gentiment accepté que je puisse utiliser les photos qu'il avait prises. Alors, c'est un beau lien que tu as fait. Merci.
Alors, ça, c'est vraiment les côtés... Comment dire, les beaux côtés du métier de journaliste, comme il y en a des fois qui sont un peu plus difficiles. Dans la fonction de ministre, j'imagine qu'il y a aussi des récompenses, mais il y a aussi des moments qui sont un peu plus sombres, plus difficiles à traverser. Vous avez connu cette valse des émotions, je présume.
Oh oui, ce sont des émotions, je le disais, c'est on parle de montagnes russes. On est parfois dans des moments où on se dit « Ah, moi, je vis ces choses-là et c'est absolument exceptionnel. » Puis d'autres moments, on se dit « Oh, ça va mal aujourd'hui. » Puis ça continue d'aller mal parce que la revue de presse n'est pas bonne. Il y a des choses qui sortent, qui sont injustes. Je peux dire que quand j'ai appris un matin que mon amie Nathalie Normandeau avait été arrêtée, j'étais dans un état j'étais vraiment en colère parce que je savais que c'était complètement injuste. Il y a d'autres injustices aussi qui sont des injustices qui touchent la santé. Lorsque Claude Béchard est décédé, ça a été un grand vide au Conseil des ministres, un ministre extraordinaire. Il venait de la région du Kamouraska, on venait du même endroit, lui et moi, on s'aimait énormément. Et il est parti au début de la quarantaine, un cancer fulgurant. Alors il y a des moments, il y a beaucoup de moments d'émotion. On développe aussi de belles émotions. amitié. Je pense à Marguerite Blais. On a été, on s'est lancé en politique ensemble en même temps. On a fait la guerre, je dirais, en même temps. Ensuite, elle est partie vers la CAQ. Là, je ne voulais plus lui parler. Et on s'est réconciliés il n'y a pas longtemps. Puis ça aussi, ça fait partie de la vie parce qu'il n'y a
Mais
pas juste la politique.
On peut aussi lier des amitiés aussi avec des gens de l'opposition.
Oh oui, oui, on peut lier des amitiés avec des gens qui n'ont pas la même vision du Québec, la même ferveur, ben pas la même ferveur, le mot est pas bon, mais qui n'ont pas la même vision du Québec que nous, et ça, je pense que c'est tout à fait normal. Je peux dire que j'ai des bons amis, par exemple, Pascal Paradis, qui est député, nouveau député au PQ. Je l'ai connu dans ses fonctions d'avocat pour Avocats sans frontières. On n'est pas des amis intimes, mais je respecte énormément son choix. Puis c'est un gars brillant. J'aurais bien voulu qu'on l'ait dans notre équipe.
Alors, on peut dire que malgré la politique, l'amour existe encore. Céline Dion.
Quand je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute. Existe encore toutes mes années de déroute, toutes je les donnerai toutes pour manquer à ton port la solitude que je redoute, qui me guette au bout de ma route. Je la mettrai dehors t'aimer une fois pour toute, pour t'aimer coûte que coûte, malgré ce mal qui court, aimer l'amour à mort. Quand je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute, l'amour existe. Raison ou tort, le monde est mené par des fous. Mon amour, il n'en tient qu'à nous. Nous aimer plus fort, au-delà de la violence, au-delà. Alors je n'ai plus de doute, l'amour existe encore, l'amour existe encore, l'amour existe encore, pour t'aimer une fois pour toutes, pour t'aimer coûte que coûte, malgré ce mal qui court, aimer l'amour à mort. Quand je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute, l'amour existe encore.
Christine, j'ai un petit mot ici, un petit clin d'œil à ce regretté ministre Jacques Daoud, pour lequel j'ai eu le plaisir de travailler, et qui a été pour vous un bon collègue.
Oui, Jacques était un homme que j'appréciais beaucoup, et surtout au Conseil des ministres. Nous étions assez à un côté de l'autre. Je ne le connaissais pas du tout auparavant, et j'ai eu tellement de plaisir avec lui. Il était drôle, il était cultivé, il était charmant, et lui aussi, lorsqu'il a quitté... En fait, il est décédé après son départ de la politique, mais on a été nombreux à se rendre à ses funérailles, parce que c'est un gars qui était aimé de tout le monde, et encore récemment, il y en a un autre qui est parti, Benoît Pelletier, un homme fantastique, extraordinaire, et lui aussi. Alors, il faut prendre le temps de s'apprécier et de s'aimer beaucoup quand on a la chance, parce qu'à un moment donné, on ne peut plus le dire parce que les gens ne sont plus là, puis ça va nous arriver à nous aussi.
Et en 15 secondes, pour la suite des choses, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour Christine Saint-Pierre?
Oh, du plaisir, des beaux projets. Je veux pas, j'aime pas le mot retraite. Je ne suis pas à la retraite. Je suis à l'extérieur de la politique, mais je veux continuer à collaborer. Je veux continuer à collaborer à la vie, à la société.
Bien, merci beaucoup. D'abord, merci pour toute cette implication dans les différentes fonctions que vous avez occupées. Moi, je me souviens d'une ancienne collègue qui me fut fort utile lors de la couverture d'un procès alors que je n'avais aucune notion du monde juridique. Vous avez été d'une très grande aide. Je retiens cette générosité. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur pour les années qui restent. Et merci d'avoir été des nôtres. Le temps de vous dire que cette émission a été réalisée sous la supervision technique de Daniel Fortin. Et on va se quitter, Christine, avec une belle chanson de Jean-Jacques Goldman, « Puisque tu pars ». Au plaisir et bon
merci
succès.
Merci beaucoup. Merci, Daniel. Merci, Armand.
Puisque l'ombre gagne, puisqu'il n'est pas de montagne, au-delà des défaut de le comprendre, à rêver nos désirs et vivre des ainsi soit-il. Et puisque tu penses, comme une intime évidence, que parfois même tout donner n'est pas forcément suffire, puisque c'est ailleurs à mieux battre ton cœur, et puisque nous t'aimons trop pour te retenir, puisque tu pars. C'est l'horizon dans ton exil et c'est